Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sur Sud Radio, de l'actualité, des débats, les vraies voix, vous le savez, hein, c'est jusqu'à 19h avec l'étudiante et blogueuse Stella Kamga qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il est déjà là, c'est Tom Conan, toujours à l'heure, artiste, bonsoir, auteur. Je vous rappelle le livre de Tom Conan, Radical, c'est chez Albin Michel. Les vraies voix, c'est aussi avec Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? Vous n'étiez pas à la manifestation? Je me suis inquiété. On ne sait jamais que Philippe Bilger soit à la manif. Non.
Pour la CGT.
Oui, bah oui, pour la CGT.
Mais... non, mais
non,
j'aurais,
y a pas de chance.
J'aurais pris des coups. Philippe.
Oui, bah oui, bah oui. On va y venir, on va en parler
moi,
évidemment.
Je regarde. Moi, c'est un peu comme Roland Garros. Je n'y vais pas, mais je regarde à la télé.
Ouais. Regarde à la télé. Alors, J-16. Eh oui, J-16 avant l'ouverture des terrasses. C'est le 19 mai. Alors, je vois que tout le monde. Il y en a certains dans le sud qui ont déjà réservé le 19 mai pour boire un café en terrasse. D'autres sur Twitter, Facebook, qui ont même fait un groupe, un collectif, et qui prennent donc déjà rendez-vous pour l'ouverture des terrasses. Est-ce que c'est votre cas? Tiens, j'aimerais juste qu'on écoute une parodie qu'on avait passée il y a quelques semaines. À l'époque, on n'y croyait pas beaucoup. Le petit crème de Charlie et Stylo, écoutez.
Il y a des établissements que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les gens en ce temps-là s'embrassaient à tout va, sans s'éloigner d'un mètre. On voyait des amis, on se promenait à minuit, je sais pas si t'imagines. On se croisait dans la rue, sans masque sur la trombine, et on se payait un jus. Un petit crème.
Eh oui, bah ça y est, le 19 mai, on va pouvoir le prendre, ce fameux petit crème. Alors, vous avez réservé ou pas? Non, quand même.
Mais
pas.
Je vais le faire. Comme vous me faites penser.
Bah oui, parce que faites attention, le 19 mai, tout le monde doit vouloir prendre son petit crème.
Sur une terrasse le soir. Moi.
Ah, le soir, très bien.
Mais moi aussi, je travaille par ailleurs pour un journal et on a effectivement réservé pour le 19 de manière assez ferme et avec vraiment l'intention vraiment d'y aller, d'honorer un petit peu ce privilège d'être parmi les premiers. Donc, ouais,
c'est incroyable. Qui aurait dit un jour qu'on allait se précipiter en terrasse pour boire un petit crème?
Après Sud Radio, Philippe Bilger.
Mais bien sûr,
mais il y a quelques trucs à terrasse.
Oui, il y a des terrasses à côté, on ira se prendre ce fameux petit crème.
Et on a jusqu'à 21h, donc on n'a pas au-delà.
Non, jusqu'à 21h. Ouais. Ah bah, on va déjà respirer. Hein. 21h en terrasse, c'est royal. Hein.
Ouais, mais... c'est clair.
Allez, les débats des vraies voix, restez avec nous dans quelques minutes. L'alliance entre le président LR sortant de la région PACA, Renaud Muselier, et La République En Marche. Alors j'imagine que vous avez tous suivi le feuilleton ce week-end. Eh oui, une alliance préparée de longue date à l'initiative de Christian Estrosi et du maire de Toulon, Hubert Falco. Coup de poignard dans le dos, OPA, les réactions se sont multipliées chez les Républicains. Alors, Renaud Muselier n'aura pas l'investiture des Républicains, c'est ce qu'a annoncé hier dans un communiqué Christian Jacob. Renaud Muselier qui se défend de toute trahison. Quant à Jean Castex, le Premier ministre, eh bien, il a déjà annoncé, écoutez bien, que de tels partenariats pourront avoir lieu dans d'autres régions. Est-ce que vous êtes surpris par cette alliance entre les Républicains et l'REM en PACA? Vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis suite à ce qu'a dit le Premier ministre, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut faire imploser la droite à un an des présidentielles? 0826-300-300, j'attends vos réactions. Venez en discuter avec les vraies voix. Et puis notre grand débat à 18h30. Je vous le disais, aujourd'hui, lundi 3 mai, officiellement débute le déconfinement par étapes. Ça ira jusqu'au 30 juin. Et ce matin, eh bien, la SNCF a ouvert ses réservations pour les vacances d'été avec une offre promotionnelle, 5 millions de billets vendus à 39€, déconfinement vacances. Et la question est très sérieuse, vous allez voir. Peut-on vivre avec le virus tout l'été? Est-ce qu'on va y arriver? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter, sur YouTube. 0826-300-300 pour en débattre avec nous. Et le médecin généraliste Jean-Paul Ortiz qui sera avec nous à 18h30. Il est médecin à Perpignan. Parce que c'est vrai qu'on a déconfiné. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un mois et demi? On ne sait pas. Voilà, on posera la question à Jean-Paul Ortiz qui a apparemment des petites infos. Voici le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Rien ne va plus à Valence. Depuis plusieurs semaines, les affrontements entre les quartiers du Plan La Zup et Font Barlette sont quasi quotidiens à Valence. Mais voilà, un cap a été franchi avec la diffusion d'une vidéo. C'était il y a 48 heures. C'est une riveraine qui a filmé la scène. On y voit plusieurs jeunes s'affronter avec des armes à feu. Ils tiraient à balles réelles et en plein jour. Écoutez le cri d'alerte du maire de Valence, Nicolas Daragon.
véritablement, moi, je lance un cri d'alerte hein, aujourd'hui pour dire qu'on a su, pour partie, répondre à l'urgence sanitaire alors qu'on nous expliquait qu'il n'y avait pas de moyens pour l'hospitalisation. Pendant la pandémie, on a su trouver les moyens. Aujourd'hui, moi, c'est la même urgence qui règne dans les quartiers de notre pays. C'est une urgence absolue.
Voilà, c'est une urgence absolue dans les quartiers de Valence. C'est ce qu'a expliqué Nicolas D'Aragon. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais elles sont impressionnantes. Hein, voilà, des jeunes, pas plus de 18-20 ans, avec des armes à feu, qui tiraient à balles réelles. Jusqu'où va-t-on aller, Philippe Bilger, si on ne fait rien? Parce qu'il y a encore quelques années, ça nous paraissait impensable de tirer à balles réelles en plein jour. Là, on y est.
J'allais dire
quelle est la suite?
J'allais dire jusqu'au pire, comme si on ne l'avait pas encore atteint, mais... Il peut y avoir un pire, encore pire. Imaginons que lors de cette fusillade multiple et nourrie de vendredi à samedi, il n'y a heureusement eu aucun blessé, aucun mort. Et demain, je ne veux pas faire une sorte de masochisme délétère, mais on pourrait craindre le pire. Alors, moi, c'est très simple, ça n'est pas d'aujourd'hui qui a Valence. Hein.
Non.
Il y a eu énormément de choses avant, il y en aura d'autres après. Mais à la limite, ce qui me scandalise, c'est même pas le délitement de l'État et la faiblesse du pouvoir, c'est le fait que on continue en réalité à chercher à analyser ces affrontements qui ne se préoccupent plus des autres. Hein, c'est clair, on dit c'est la drogue, on dit ils veulent regagner un territoire, et si tout simplement c'était des jeunes gens de 15, 16, 17 ans qui ont compris qu'ils peuvent faire totalement ce qu'ils veulent en France. Mmh. Et donc, personne n'a appelé la police à Valence parce qu'on pensait qu'elle était intervenue juste avant pour secourir des pompiers qui eux-mêmes étaient attaqués. Et donc, ça a duré durant un certain temps. Et pourtant, le maire de Valence est très remarquable, pas parce qu'il est républicain, mais parce que André Bercoff lui a posé de très bonnes questions. Et le maire a dit « Non, moi, je n'ai pas besoin de militaires. Je veux simplement qu'on me donne des moyens et que lorsqu'on aura éradiqué le trafic de drogue ici ou là, eh bien, on laisse des forces de police sur place, sinon ça recommencera. »
Ouais, alors c'est quand on dit, quand Gérald Darmanin explique qu'il y a un renfort de 60 policiers, et je me suis renseigné, effectivement, c'est pour un certain temps, les 60 policiers. Voilà, ils ne sont pas là... De façon pérenne, j'ai envie de dire. Tiens, Tom Conan, juste après, c'était la Camga qui vient d'arriver.
Moi, je suis pas du tout spécialiste de ces questions. Après, effectivement, elles sont quand même assez terrifiantes à constater. Et ce que dit Philippe Bilger, je pense, tombe sous le sens. Mais par ailleurs, c'est vrai que moi, je me souviens quand même bien du mouvement des Gilets jaunes, que pour le coup, j'ai suivi de manière beaucoup plus précise, pour avoir eu pas mal de proches qui étaient dans ces milieux-là, y compris d'ailleurs parmi les Black Blocs, etc. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que toutefois, la surenchère de la violence, de part et d'autre, je veux dire, côté de la violence, en tout cas, le fait de s'armer, le fait d'avoir des moyens adéquats pour lutter contre ces violences-là. Rappelez-vous, quand il y avait eu des chars déployés dans Paris par la police, hein, pas des chars militaires, finalement, est-ce que ça avait vraiment tué le mouvement? Pas forcément. C'est-à-dire que finalement, ça l'a déplacé. Les gens se ensuite allaient dans d'autres rues adjacentes ou alors dans d'autres villes. Je ne suis pas sûr que cette surenchère de part et d'autre soit forcément intéressante, puisque même aujourd'hui, après, les gens sont un peu rassérénés dans certaines convictions, puisque finalement il y a une espèce de jeu après qui se met en place. Hein. Rappelez-vous, dans les franges les plus extrêmes, en tout cas parmi les Gilets jaunes, à droite et à gauche, parce qu'après c'était un peu confus d'ailleurs, on savait plus qui était dans les crypto-fascistes, dans les Black Blocs, etc. Il y a même des espèces d'alliances parfois, de circonstances qui pouvaient même arriver. Et vers quoi ça mène, je ne sais pas. Je pense que déposer les armes des deux côtés serait sans doute la bonne chose, mais taper comme des brutes.
D'accord. Alors
sur un camp.
Qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça?
Évidemment, c'est compliqué. Deux côtés, en l'occurrence, il y a des voyous des deux côtés.
Oui, non, mais bien sûr. Alors, en l'occurrence, mais je veux dire, de manière générale, je pense quand même que
non,
ça.
Non, mais je comprends bien votre analyse qu'on puisse déplacer le problème, mais au bout d'un moment, il faut peut-être prendre.
Ah ouais, non,
faut peut-être essayer.
Là, mais de quelle manière, je ne suis pas certain, parce qu'à ce moment-là, on peut quand même toujours envoyer. Je veux
là,
dire,
j'ai l'impression
des armes
qu'on
n'essaye
même pas. On
n'essaye
même pas. On a souvent le débat sur les militaires dans les banlieues, mais avant d'analyser et de voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on pourrait peut-être essayer.
Oui, et puis la question, c'est peut-être aussi pourquoi est-ce que ces gens font ça. Évidemment, je sais que ce n'est pas le seul sujet. Rappelez-vous, Manuel Valls, quelques années, disait que j'ai pu comprendre, c'était pas pardonné. Ouais. Bon, voilà. Bon, sans forcément être un fan de Manuel Valls, c'est loin s'en faut. Mais pour autant, c'est quand même vrai. Il faut quand même aussi savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le profil de ces gens concrètement, qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée.
Apparemment,
c'est
rien.
C'est quoi le projet?
Non, mais genre, voilà, pas grand-chose.
Non, mais plutôt que juste réprimer, il faut aussi quand même comprendre ça. Il faut réprimer, mais faut faire autre chose derrière quand même.
Ouais. Hein. C'était là,
Camga. On aimerait bien vivre dans un monde super doux où on dit écoutez, arrête de déposer les armes, et les mecs qui déposent les armes en s'exécutant, on aimerait bien. Mais le fait est que en attendant, effectivement, il faut régler la situation. Il y a des personnes qui tirent quand même à balles réelles et on ne sait pas, on dit heureusement aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de blessés et qu'il n'y a pas eu de morts. Et si c'était le cas, s'il y avait eu des blessés, s'il y avait eu des morts, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça aurait été des familles en deuil. On serait en train de déplorer plus que ça. Donc je veux bien qu'on m'explique qu'il ne faut pas toujours employer, comment dire, l'usage de la force légitime avec la police et tout ce que ça comporte. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Quand on a en face des gens, on a en face de nous des personnes qui sont déterminées, qui prennent des armes en plein jour et qui veulent buter, c'est bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler, en fait.
Donc il faut être aussi déterminé en face.
Mais à un moment donné, oui, moi je suis désolée.
Alors, il faut appliquer
les forces de l'ordre, elles ne sont pas là pour faire joujou, en fait. On est dans un état de droit, ce n'est pas la jungle, et les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre. Dans ce cas, qu'elles fassent leur boulot, qu'on mette des policiers et qu'on fasse ce qu'il faut. Après, oui, on pourra déterminer le profil psychologique ou organiser des sessions avec le psy pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est magnifique, il n'y a pas de souci.
C'est pas forcément psychologique.
Oui, mais non.
Tiens, Philippe Bilger, est-ce que la police aurait fait fuir membres de bandes rivales, en fait, voilà.
C'est le problème, c'est que elle n'était pas là, on l'aurait appelée, elle ne serait pas venue en nombre, ils auraient eu le dessus. C'est ça le gros problème, bien sûr. Tout le monde est d'accord, à moins d'être un anarchiste pathologique, pour dire que la police doit réprimer les agissements scandaleux qui portent atteinte à la vie des riverains.
Après, je vais peut-être me faire taper dessus, mais malgré tout, il y a quand même toujours, encore une fois, une analyse sociale à faire quand même. Je ne dis pas d'excuser quoi que ce soit, ou même de dire qu'il faudrait faire des sessions avec des psys. Effectivement, je ne pense pas que ça vaille tout le sujet à ce stade-là. Mais effectivement, socialement, à un moment donné, il y a quand même, je pense aujourd'hui, sans être non plus sociologue, je pense que personne ne l'est ici, mais il y a quand même des strates de la société aujourd'hui, à des âges de plus en plus jeunes, qui sont complètement exclus, en tout cas, qui sont en dehors presque de la société, qui ne sont pas scolarisés, qui ne sont pas en train de travailler, ni en formation, etc.
C'est sûr que s'ils travaillaient ou ils étaient à l'école, ils ne seraient pas dans la rue.
Socialement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens, en fait, qui peuvent passer leur vie, en fait, à faire ça, parce qu'ils n'ont aucun autre élément qui les raccroche à quelque chose, encore une fois, d'un point de vue social. Je pense aussi que c'est le vrai problème du monde d'aujourd'hui, un peu du monde nouveau, vous savez, qu'on appelle souvent comme ça, de manière un peu cynique d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. C'est parfois une réalité assez angoissante. Et l'un des aspects de cette réalité angoissante, c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, les emplois, les perspectives d'emploi, les perspectives même d'études pour beaucoup, s'effritent de plus en plus. Je crois un nombre incalculable de personnes qui, à 20 ans, se disent de toute façon, maintenant j'arrête, ça sert à rien. De toute façon, dans tel domaine, c'est bouché. Dans tel autre, on peut même pas gagner sa vie, etc. Il va y avoir, j'ai regardé des statistiques de l'agence Bloomberg hier qui disait qu'il y aurait dans quelques années de l'ordre de 500 millions à 1 milliard de personnes sur donc les à peu près 7 milliards qu'on est actuellement. Je sais jamais quels sont les chiffres exacts qui auront des jobs de type, vous savez, Deliveroo, Uber Eats.
Je suis désolée,
etc.
Là, je peux pas vous suivre.
C'est-à-dire que donc dans quelques années, il y aura une personne sur 7 potentiellement qui sera dans le genre de situation à gagner grosso modo 2-3 euros de l'heure, y compris dans des pays développés comme les nôtres où le coût de la vie est quand même très élevé. Donc à un moment donné, on va créer aussi les conditions pour qu'à un moment donné, les personnes s'insèrent dans des trappes, non pas à pauvreté, mais des trappes, pourrait dire, à violence.
Alors,
et à délinquance.
Pour finir et pour répondre à Tom Conan,
c'est
là juste après Philippe
Bilger. Je suis désolée, parce qu'effectivement, il y a eu un passage chez Cyril Hanouna de TPMP, pourtant je ne suis pas toujours, qui est passé, et on parlait justement des jeunes qui ne sont plus intéressés par rapport à l'école. Pourquoi? Parce que quand ils dealent de la drogue, ils gagnent 10 fois plus d'argent que s'ils vont à l'école et qu'ils finissent leur boulot. Ils rêvent de devenir footballeur, ils rêvent de devenir influenceur. Ça, ce sont des métiers qu'on n'apprend pas à l'école.
C'est pas faux.
Donc, va expliquer à un jeune qui doit aller à l'école et qui va gagner sa vie honnêtement, alors qu'il suffit de ne rien faire et de devenir
influenceur. En fait, c'est une éducation à faire.
Ça n'a absolument rien à voir avec l'espèce d'aller à l'école et des débouchés. Moi, je suis arrivé en France, je suis allé à l'école, j'ai eu des débouchés.
Allez, juste pour finir, Philippe Bilger, pour conclure.
Tom, je devine bien son état d'esprit. Non, je ne me moque pas des analyses sociologiques, mais il ne faut pas les apposer, en quelque sorte, sur toutes les réalités, Tom. Là, on est en train de parler d'affrontements qui sont
pas... Ouais.
Oui, mais vous ne pouvez pas, en même temps, apposer une... presque une excuse sociologique sur non, des affrontements et des modes de vie qui ont été choisis.
Ouais. C'est une explication.
Ouais. Qui ont été choisis.
On va s'arrêter un court instant, les débats des vraies voix. C'est la suite, évidemment. L'accord, l'alliance hein, entre Renaud Muselier et La République En Marche en région PACA. Est-ce que vous êtes surpris par cette alliance? Vous votez sur Twitter et YouTube. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à un an de la présidentielle maintenant, va faire imploser la droite? 0826 300 300, venez en discuter, venez en débattre avec les vraies voix. On revient très vite. À tout de suite.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Stella Kamga ce soir, Philippe Bilger, Tom Conan. On poursuit le tour de table de l'actualité, bien justement. Avec vous, mon cher Philippe, 1 000 000 d'embauches pour réduire les délais de jugement. Alors ça, c'est ce qu'a annoncé notre garde des Sceaux. Voilà, Éric Dupond-Moretti, Philippe.
Absolument. Autant je... pour 1 000 raisons... je n'aime pas Éric Dupond-Moretti lorsqu'il sort de son champ professionnel et ministériel, autant j'espère avoir l'honnêteté de dire que lorsqu'il s'occupe de quelque chose qui est fondamental, la réduction des délais de jugement, surtout en matière civile, moi j'aurais aimé, mais probablement le fera-t-il, qu'il touche toutes les justices, tous les retards en quelque sorte. Mais là, je ne peux que dire, s'il réussit à le faire, eh bien c'est très bien. Parce que...
C'est possible ça, son objectif, il est tenable en 3 ans, 1 000 embauches en 3 ans.
À partir du moment où on s'attache véritablement à un garde des Sceaux qui dit la lenteur des procédures est tout de même une plaie dramatique, et je dirais, fini là-dessus, Philippe, à la fois... c'est une exigence pour le citoyen. Il est fondamental de satisfaire le citoyen qui attend vite une décision. Et d'autre part, ça devrait être une obligation pour le magistrat. Ouais. Et trop souvent, j'ai remarqué, au cours de ma trop longue carrière, que le citoyen n'est pas toujours la priorité du magistrat.
Malheureusement.
Lorsque le citoyen s'occupe de la justice, on a parfois l'impression, à entendre certains magistrats, qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Ouais. Alors que pour moi, c'est
l'inverse. Philippe, alors je vous donne quand même la moyenne des délais de jugement, hein, c'est intéressant, la moyenne d'un délai de jugement en ce moment, hein, c'est 14 mois en première instance, 17 mois en appel, en sachant que depuis le premier confinement, il y a quand même 1,3 million de dossiers en attente. Ouais, ils vont rattraper, j'espère.
Et alors là, c'est en effet en matière civile, parce que dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus long. Hein.
Honnêtement, Tom Conan. Moi, je trouve que c'est absolument central comme aspect, pour avoir eu pas mal de personnes autour de moi dans des litiges civils, pas forcément très graves, des divorces, ça peut être grave d'point de vue personnel, ouais. Mais
c'est très long,
on n'est pas dans le pénal, ouais. Mais c'est absolument incroyable. Et après, ça met les gens dans des situations ubuesques où du coup ils sont obligés de prendre des locations parce que du coup ils n'ont pas pu liquider le mariage, le régime matrimonial. Donc c'est très très compliqué. Et ensuite, je pense aussi que pour certaines personnes, notamment les moins informées et les moins friquées aussi, ça les dissuade parfois d'engager des actions parce qu'ils disent finalement si je pars pour 2 ans de procédure, tant pis, etc. Mmh. Donc c'est quand même un vrai problème aussi d'égalité démocratique, d'accès aux droits.
C'est vrai.
Je sais que le droit européen après met quand même en avant l'idée qu'il doit y avoir un procès dans un délai raisonnable, et parfois la France est condamnée et d'autres pays également, et ça devrait être plus systématique.
Mais on se plaint tout le temps, mais est-ce que vous le savez, est-ce qu'on est, les plus en retard en matière de délai ou pas, la France?
On a déjà été condamné plusieurs fois, en tout cas.
On n'est pas les premiers. Alors,
bon.
Juste un mot avant Stella. Il y a un autre critère, mais on devrait s'en occuper, mais ça, c'est presque de la politesse judiciaire. Je suis effaré de constater que les citoyens qui s'adressent à la justice, qui déposent plainte, par exemple, ils ne sont pas systématiquement avisés du classement sans suite, par exemple. C'est hallucinant. Un citoyen s'adresse à...
Il faut le demander.
C'est anormal. On sait plus qu'un accusé de réception dans notre monde. Mais en matière de justice, c'est encore...
Tiens, vous avez déjà porté plainte, vous, Tom, ou non? Vous avez
faire aller à la justice? Oui, pour des choses vraiment mineures, quand j'étais môme, des petites violences, des choses comme ça. Rien de grave, hein, vraiment.
Bon,
rien de très sérieux.
C'était là, heureusement. Sur la lenteur de la justice.
Non.
Moi, je connais des personnes qui ont porté plainte et effectivement, l'affaire avait été classée sans suite, mais ils n'ont jamais justement de retour. Ouais. Du coup, moi, mes problèmes, je les règle moi-même, en fait.
Ouais. C'est-à-dire, tu t'intéresses.
Je les règle moi-même.
D'accord.
À l'ancienne,
À
l'ancienne.
Œil pour œil, dent pour dent,
c'est ça.
Bon. Tiens, juste une dernière question. Maintenant, vous savez que pour certains divorces, à l'amiable, on passe par le notaire. Donc voilà, ça. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer pour certains dossiers, alors je suis pas un expert, mais passer par exemple par des notaires plutôt que par les tribunaux ?
Ça fait longtemps, des années, qu'on cherche à mieux définir l'objet judiciaire. Et à chaque fois, ça capote. Mais moi, je voudrais bien... je ne serais pas hostile au fait qu'on définisse très exactement ce qui devrait être judiciaire.
Ouais.
Et alors, on n'écarterait pas forcément le reste, mais on le confierait à d'autres. Mais les magistrats ont cette particularité. Je les ai entendus souvent se plaindre qu'ils ont trop de travail, et dès qu'on leur propose des aides, des assistants de justice, ils n'en veulent pas.
C'est
les, et comme s'ils voulaient demeurer entre eux,
mais c'est
et
ça.
Puis en même temps avoir
vous savez, c'est comme ces patrons qui ont beaucoup de travail, mais qui ne veulent pas déléguer.
Et puis il y a les notaires, c'est vrai, mais il y a également les avocats, et n'oubliez pas qu'en France, je crois qu'il y a à peu près 20% des avocats qui prennent 80% du chiffre d'affaires, et donc 80% des avocats qui en prennent que 20%, donc il y a beaucoup d'avocats à 1 500 € par mois, et donc à un moment donné, leur donner aussi un peu du travail, avec aussi, parce que les notaires, à un moment donné, eux, ils ont quand même un boulot qui vient directement, c'est pas très compliqué pour un notaire de faire du marketing, puisque vous avez immédiatement des affaires. Donc, je veux dire, à un moment donné. Donc, pour les avocats, je pense, oui, il faudrait plaider pour leur cause. Dans d'autres pays, les avocats ont beaucoup plus de rôles à jouer.
C'est vrai.
Dans le monde anglo-saxon, notamment.
Allez, restez avec nous. On va revenir dans quelques minutes pour le premier débat des vraies voix. L'alliance, l'accord LR, LREM en PACA et le Premier ministre, donc, qui annonce que d'autres accords de ce type pourraient avoir lieu dans d'autres régions. Emmanuel Macron est-il en train de mettre un coup d'arrêt au LR? 0826 300 300. Tiens, dites-nous si vous êtes surpris par cet accord. Vous votez sur Twitter et YouTube. A tout de suite.
Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Je sais pas si vous avez reconnu le générique des Feux de l'amour. Tiens, qui regardait les Feux de l'amour? Philippe Bilger, Stella, vous regardiez Auris. Philippe, pas de mal. Mitterrand regardait Santa Barbara. Ah, ça le, bah oui, ça le détendait.
Santa Barbara, j'ai regardé.
Non, Tom Conan. Friends, c'est ma
ah ouais, c'est autre chose. C'est autre chose.
Ah, ouais.
Sympa aussi. Les Feux de l'amour. Alors, depuis.
Ah, tiens, j'ai vu.
Allez-y,
pardon,
allez-y.
Philippe,
non, allez-y.
Une série fabuleuse d'une intelligence.
How I Met Your Mother.
Rectify. Ah, fabuleuse.
Ah, très bien, mais on va regarder. Rectify.
Haut niveau.
Ok,
hein.
Bon, alors, c'est pas les Feux de l'amour. Hein. C'est pas les Feux de l'amour. Parce que les Feux de l'amour, c'était pas très haut niveau, hein, on peut le dire. Depuis 48 heures en région PACA, eh ben, c'est un peu les Feux de la droite. Les LR divisés. Ce qui a mis le feu aux poudres, eh bien, c'est cette alliance entre le président LR sortant de la région PACA, Renaud Muselier, et La République En Marche. Une alliance apparemment préparée depuis plusieurs semaines et apparemment à l'initiative du maire de Nice, Christian Estrosi, et du maire de Toulon, Hubert Falco. Et les réactions pleuvent ces dernières heures du côté des LR. Coup de poignard dans le dos, OPA. Renaud Muselier qui n'aura pas l'investiture des Républicains, c'est ce qu'a annoncé Christian Jacob par communiqué. Renaud Muselier qui se défend de toute trahison. Tiens, je vais vous lire exactement ce qu'a tweeté Renaud Muselier. Hier, ma famille politique me soutenait aujourd'hui parce que Jean Castex annonce retirer la liste LREM. Je suis accusé de trahison. Je suis candidat sans accord d'appareil, sans alliance ni fusion. Voilà ce qu'a tweeté Renaud Muselier. Quant à Jean Castex, eh bien, il a annoncé que de tels partenariats pourraient avoir lieu dans d'autres régions. Est-ce que vous êtes surpris par l'alliance LR, LREM en PACA sur Twitter et YouTube? Vous nous dites non. Non à 83% et tous les mêmes. Hein, c'est ce qu'on peut lire en commentaire sur les réseaux sociaux. Est-ce que Macron est en train de faire imploser la droite? 0826 300 300. On va avoir votre avis. On va vous écouter dans un instant. Tiens, j'aimerais juste avoir une réaction, Philippe Bilger, sur la défense de Renaud Muselier. Je suis candidat sans accord d'appareil, sans alliance ni fusion.
Non, mais il n'est pas sérieux.
Il exagère.
Il n'est pas sérieux. Il y a 3 jours, vous l'avez rappelé, Philippe, il dit qu'il n'aura jamais d'alliance avec la République En Marche. Et comme on aura du temps pour le débat, je veux juste avancer un point avant que mes amis réagissent. Il se moque du monde lorsqu'il dit qu'il lutte contre le Rassemblement National et par conséquent, les Républicains devraient le féliciter. On sait pertinemment, il sait aussi bien qu'il quiconque, que derrière cette stratégie, il y a la volonté de Macron de casser ce qui reste aux Républicains. Donc, ça n'est pas l'objectif. Et lui-même, avec un cynisme auquel je pourrais rendre hommage si c'était le premier en politique. Ben, y en a une.
Non, mais peut-être qu'il aime tellement sa région, la région PACA, qu'il ne veut pas la laisser aux mains du RN, quitte à faire une alliance avec LREM. Ouais.
Mais là, je crois que c'est ostensible. Et j'espère que comme c'est ostensible, eh bien, la droite saura pour une fois réagir.
Bon, non, c'est la Camga, juste après, ça me donne la parole. C'était là, allez-y.
En tout cas, en ce qui me concerne, si j'étais électeur, je pense que j'hésiterais pour voter. Enfin, j'hésiterais à voter pour les Républicains, parce que depuis un moment, on a l'impression, on ne sait pas trop à quel jeu ils essaient de jouer. Par rapport à ça, justement, la réaction de Xavier Bertrand.
Ouais. C'est... Alors, on va l'entendre. Xavier Bertrand qui a réagi et qui a passé un petit message à Renaud Muselier. Écoutez.
Je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur, une terrible erreur, parce que seul, il peut gagner. Avec En Marche, il ne gagnera pas. Cet accord, il est irresponsable, parce qu'il fait du Front National le premier opposant, le seul opposant. Il nous amènera, cet accord, au déshonneur et à la défaite. Et comme le disait quelqu'un d'illustre, il est toujours temps de ne pas se ruer dans la servitude. C'est ce que disait le général de Gaulle. Et en tout état de cause, les Républicains n'ont pas vocation à être les supplétifs d'En Marche.
Voilà, d'En Marche.
Mais justement, c'est ça qui est drôle, parce que Xavier Bertrand, c'est quand même celui qui a appelé à voter Macron, qui était en train de faire l'éloge de Macron aux dernières élections. Donc,
il a changé d'avis.
Je vais te montrer les réactions en vidéo et les tweets, mais c'est vrai, de toutes les façons, moi je dis une chose. Les Républicains, malheureusement, ils sont en train de décevoir parce que, pour quelqu'un de droite, l'idée, en fait, c'était à défaut de ne pas se retrouver au Rassemblement National, ils voteraient en tout cas pour les Républicains. Mais maintenant, si les Républicains deviennent une branche sous-jacente de la République En Marche, il y a une espèce de trahison qui est là. Moi, je félicite en tout cas Emmanuel Macron pour le coup, parce que je vous le dis, et j'ai dit, personne ne sera d'accord, je suis impressionnée parce que toutes ces personnes-là ont critiqué Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, dans sa réaction, est en train de dire, écoutez, vous critiquez, vous pensez que je ne suis pas à la hauteur, eh bien, je vous donne des postes, faites vos preuves. Ouais. Le résultat, là, c'est que quand ils arrivent au poste et qu'il faut qu'ils fassent leur preuve, ils ne font pas leur preuve, justement. Et donc, là, c'est une réalité, c'est un coup de claque. Moi, j'aime.
C'est vrai qu'on veut...
Ça amuse Stella, en tout cas. Tom Conan.
Ce qui m'amuse, c'est qu'on veut museler Muselier.
c'est ça.
Ça veut quand même son pesant. mais en revanche, ça me semble effectivement pas très surprenant, puisque le fond commun idéologique de tout ça, parce que la politique, c'est de la stratégie, du cynisme, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est quand même aussi un fond commun idéologique, si on aime bien ce qu'ils font, c'est ces jeunes gens, enfin ces vieux gens, parfois. Et vous, ces jeunes gens, je ne sais pas. Et donc, c'est le libéralisme, en fait, qui est le fond commun de tout ça. Le Macron est un libéral économiquement, c'est un libéral d'un point de vue sociétal, et LR anciennement UMP, et aussi quand même pas forcément dans son ADN, mais en tout cas aujourd'hui de manière disons contingente, actuelle, c'est également un parti libéral, fondamentalement. Alors sur les questions sociétales, un peu moins, mais honnêtement, il y a des gens à LR qui sont, il me semble, pour la légalisation du cannabis, en tout cas on pourrait en trouver sans problème, ils sont pas pour revenir sur le mariage gay, heureusement, pour la plupart, il me semble, et économiquement, ils sont aussi plutôt libéraux, plutôt pour baisser les impôts, pour moins d'État, etc. Donc en fait, effectivement, à un moment donné, autour d'une table, un dîner entre amis, est-ce que ces gens partiraient en vacances ensemble? Oui, sans doute. Est-ce qu'ils le font déjà? Oui, sans doute.
Est-ce qu'ils travailleraient ensemble?
Alors, bien sûr. Ouais. En réalité, le continuum, il est absolument évident. Je veux dire, la fin du mandat de Hollande était déjà extrêmement explicite là-dessus. Avec l'arrivée de Macron par la fenêtre, qui ensuite est arrivée par la porte de manière plus formelle quelques mois plus tard, mais finalement le job était déjà fait, on était déjà là-dedans. Manuel Valls lui-même est un homme, on pourrait dire, de centre-droit ou de centre-gauche, mais c'est finalement la même chose. Le centre, comme disait Mitterrand, pour le coup, n'est ni à gauche ni à gauche. C'est la vérité, je suis désolé.
Donc, après, tout Macron, ce petit monde se ressemble, c'est ce que vous
Macron
nous dites.
Macron n'est pas forcément que à droite, mais en tout cas, il est libéral, et comme aujourd'hui, 80% du spectre politique, c'est quand même des libéraux, forcément qu'ils trouvent des alliances naturelles.
Oui, je sais,
d'abord, Tom, je ne suis pas totalement d'accord, parce que le libéralisme économique n'est pas le terreau de toutes ces tendances-là. Et au sein des LR, tu as davantage, il y a des aspirations à davantage d'État. Je veux dire, un type dont je ne raffole pas, Aurélien Pradier, il est pratiquement à peu de choses près dans ta conception. Hein. Et le reste, le culturel, le sociétal, je dirais évidemment, notamment le régalien, ne permettent pas de faire des similitudes très claires. Moi, je...
Après, on peut être libéral et être ce qu'on appelle minarchiste, c'est-à-dire être pour effectivement un État régalien fort, mais être libéral pour le reste du règne. Allez. Et quelqu'un comme Pécresse, c'est exactement ce qu'elle est.
Est-ce que vous aussi, vous êtes surpris par cette alliance LR-LREM? Vous dites non sur Twitter à 83%, 0826-300-300. Nicolas est avec nous, il nous appelle de Perpignan. Nicolas, bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à vous, mon cher Nicolas. Alors, cette alliance, cet accord LR-LREM, surpris déjà quand on vous l'a annoncé, quand les médias l'ont annoncé il y a 24 heures?
Non, en fait, parce que je pense que les Républicains et tout le monde a compris que, par exemple, à Perpignan, les divisions au sein des Républicains et le fait que La République En Marche soit aussi avec des candidats aux municipales a conduit à la dégénération totale des partis en place et finalement le Rassemblement National en a profité. Et je pense que
Louis Alliot, c'est le maire de Perpignan.
Ouais. Moi, je pense que tout le monde tire la conclusion de ce qui s'est passé à Perpignan et que c'est le réalisme politique qui aujourd'hui conduit cette élection locale, parce que les régionales, c'est des élections locales. Et Xavier Bertrand, il n'est pas du tout dans le même contexte dans sa région. Il ne sait pas comment ça fonctionne au niveau du Rassemblement National actuellement dans le Sud. Il y a 33 élus du Rassemblement National qui sont déjà élus au Conseil Régional de PACA. Et je pense que il y a un vrai risque pour la présidentielle après-derrière. Si jamais le Rassemblement National gagne une région, Macron a bien compris que ce serait encore une dynamique pour le Rassemblement National. Et je pense que c'est très intelligent de la part des Républicains de sortir des logiques de partis qui ne veulent plus rien dire, parce que je crois que plus personne ne les écoute. Renaud Muselier, il n'a plus besoin d'être républicain, il n'en a plus besoin parce qu'il a fait ses preuves. Et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup des personnes, des alliances, mais on ne parle pas des projets finalement de la région.
Alors c'est que Christian Estrosi et Hubert Falco étaient pour sortir de ces appareils, hein, c'est ce qu'ils avaient dit il y a quelques semaines. Est-ce que si ça continue comme ça, il ne va pas y avoir un grand parti LREM, LR, est-ce que c'est imaginable ça?
Mais moi, ce qui m'inquiète en PACA, même si je ne suis pas obsédé par cette région, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense, ça va redonner encore de l'ampleur au Rassemblement National qui va devenir le seul opposant authentique et véritable à Emmanuel Macron, alors que la droite aurait pu l'être.
Beaucoup disent à Renaud Muselier, mais tu aurais gagné sans cette alliance avec LREM. Vous dites la même chose ou pas, Philippe Bilger?
Pour sortir de aspects de pure stratégie, je pense que quand même qu'il y a la gauche, aujourd'hui, évidemment, elle n'est pas très structurée, c'est moins qu'on puisse dire, et le PS est quand même un grand cadavre à la renverse, comme disait déjà BHL il y a très longtemps, je crois. Mais je pense que c'est plutôt sur ce terrain-là, enfin sur ce spectre-là, que là, il y a plus à construire. Parce que finalement, quels que soient les appareils, les repositions dans les prochaines années, peu importe, mais en fait tous ces partis-là seront quand même plutôt sur le spectre centre-droit, droite, etc., puis après carrément le RN. Mais à gauche, il y a un espace énorme, il y a quand même un boulevard énorme sur les questions, on va dire, écologiques, les questions sociétales aussi pour certaines, les questions sociales en général, même la conception de l'État, la vision même des relations internationales, un internationalisme même soft, voilà, tel qu'il pourrait être défendu par d'autres biais. C'est beaucoup plus là-dessus en fait qu'est attendu. En fait, c'est parce qu'il y a vraiment une absence de gauche aujourd'hui dans la plupart des partis historiques, et même Europe Écologie n'est pas forcément sur un positionnement clairement à gauche aujourd'hui d'ailleurs, c'est revendiqué comme tel par Jadot, il me semble, qui ne se positionne pas directement comme étant de gauche. Donc c'est pour ça qu'en fait la droite aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, parce qu'à gauche, il y a un grand absent.
Allez, score final sur les réseaux sociaux, Twitter et YouTube. Est-ce que vous êtes surpris par cette alliance LR-LREM? Vous dites non à 83%. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio.
Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune.
Un retour des gilets jaunes est-il possible? Les gilets jaunes qui ont remis leur maillot et qui ont manifesté samedi 1er mai, des mots d'ordre qui mêlaient la précarité, les salaires, des manifestations qui appelaient également au retrait de la réforme de l'assurance chômage. Avec le déconfinement qui arrive, croyez-vous au retour des gilets jaunes? Vous dites oui à 92% sur les réseaux sociaux. 0826 300 300, on va vous donner la parole tout de suite avant d'interroger les vraies voix. Daniel est avec nous, il habite à Tarbes. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous, mon cher Daniel. Alors, vous avez vu des gilets jaunes qui ont défilé pour la première fois depuis de longs mois, samedi 1er mai. Est-ce qu'avec le déconfinement, donc par étapes, et quand les manifestations seront totalement permises, est-ce que vous croyez à un retour des gilets jaunes?
Mais honnêtement, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas.
parce que je pense que toutes les conditions qui ont fait que ce mouvement est apparu sont toujours à minima autant en place, voire même pire. Je m'explique rapidement. Déjà, toutes les réformes contre lesquelles ça avait fait lever des boucliers, elles sont toujours là et elles vont ressortir. Alors, je vais lister rapidement, mais l'assurance chômage au 1er juillet, ça fait quand même une perte de revenus pour pas mal de chômeurs. À partir du 1er, c'est déjà acté. La réforme des retraites est passée en 49.3 en mars l'an dernier. Il ne reste plus que l'application derrière. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas sur le devant de la scène. Sachant qu'en plus, là, la France vient de poser le plan de relance pour toucher l'argent de l'Europe sur le Covid. Il faut savoir qu'au niveau de ce plan qui a été déposé, on est tenu de respecter les 12 critères de l'Union européenne et notamment une réduction au niveau des retraites et des chômages. La France est engagée dessus dans ce plan qui nous engage jusqu'en 2026. Mmh. Donc, ça, plus la précarité qui, je ne pense pas, soit descendue suite à la crise qu'on a connue jusqu'à maintenant, hein, avec le nombre de gens qui sont retrouvés en chômage total ou chômage partiel ou qui vont perdre leur activité. Je parle même pas des restaurants qui vont fermer, des petits commerces qui n'ont pas pu ouvrir, des stations de ski et j'en passe, c'est des meilleurs. Moi, à mon avis, toutes les conditions sont amplement réunies pour que ça reprenne. Alors, ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris.
Vous étiez vous-même sympathisant Gilets jaunes ou alors vous aviez manifesté lorsque les Gilets jaunes étaient dans la rue il y a un an et demi?
Alors, je ne suis pas Gilet jaune, par pensée, je suis plutôt pour, parce que quand je vois tout ce qui se passe, et l'état où on est maintenant, et ce qui va arriver derrière, parce qu'à mon avis, il faut pas se le cacher, après le Covid, c'est pas les vaches grasses qui nous attendent, c'est plutôt les vaches
grasses. Ça, on est tous d'accord.
Donc, clairement, qui sait sur où on va faire des réductions, ça va être tout le temps sur les acquis sociaux. Je connais pas d'autres exemples où on se dit, ça m'étonnerait qu'il y ait, par exemple, une apparition d'un énorme impôt sur les sociétés ou les fortunes. Ouais. Qui sortent du chapeau derrière ça. Donc,
donc les Gilets jaunes vont rebattre le pavé. Alors Philippe Bilger, il nous reste peu de temps, je vais vous interroger les trois. Philippe Bilger, Daniel.
Je rejoins Daniel sur le futur qui va être très préoccupant, angoissant, et qui pourrait servir de terreau aux Gilets jaunes. La seule chose qui fait que j'objecte quelque chose, c'est que j'ai cru comprendre que les Gilets jaunes eux-mêmes, je l'ai vu par exemple à Pontoise ou ailleurs, semblent être devenus conscients du fait que leur méthode avait échoué et qu'ils préfèrent finalement travailler de l'intérieur. Et donc, je n'imagine pas les Gilets jaunes ressurgir de la même manière.
Ils repensent à, par exemple, bloquer des ronds-points, par exemple.
Non, mais même entre autres, au sein des institutions et des organes.
Alors, moi, effectivement, je pense que cette colère, elle va continuer à monter sans doute. Après, la colère purement négative mène à rien. C'est un peu le problème aussi. Après, il faut quand même une organisation et un peu un programme. C'est quand même parfois ce qui a pu manquer à
c'est ce qu'ils n'ont pas pour l'instant.
C'est ce qu'ils n'ont pas pour l'instant, mais ça pourrait venir. Mais par exemple, en tant qu'inspiration, alors ça va paraître très social-démocrate et très sérieux, mais par exemple, ce que fait Joe Biden outre-Atlantique est quand même assez intéressant. Il y a un plan de relance de 2000 milliards pour les infrastructures. Dieu sait que les États-Unis avaient vraiment un grand besoin d'investissement là-dedans. Il y a une politique, vous savez, qu'on compare un peu à celle de Roosevelt, avec une taxation très forte pour certaines entreprises et notamment pour celles qui ne payent pas suffisamment d'impôts, notamment les GAFAM en question dont on parle souvent. Et effectivement, je pense que le souffle qu'il peut y avoir à la fois avec de la méthode, vraiment une vraie pensée économique, écologique également, qu'il s'agit d'intégrer à cette relance-là, là, ça pourrait donner corps, pourquoi pas, à quelque chose qui se rapproche des Gilets jaunes en France. Alors, Joe Biden est sans doute un Américain, mais en France, l'équivalent pourrait aussi se constituer, pourquoi pas.
Aux États-Unis, ils taxent les plus riches. Hein.
Voilà,
ce qu'il a dit, Joe Biden.
Il va falloir que les plus riches aident. En quelques semaines, il a vraiment battu un travail considérable.
Stella, sur le retour des Gilets jaunes.
Par rapport au retour des Gilets jaunes.
On les a vus ce samedi défiler.
C'est ça. Je doute fort que c'est la même impulsion que dès le départ, vraiment. Déjà parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, au début, je soutenais le mouvement. Après, le mouvement s'est perdu entre des guerres de leadership et des guerres de représentation. Et
plus les Black Blocs, évidemment.
Voilà, il y a eu une composition de tout et de rien. Là, maintenant, ils veulent repartir de plus belle. Est-ce que c'est les mêmes motivations pourtant, je suis d'accord avec Daniel. Je suis vraiment d'accord avec tous les points qu'il a cités. Mais disons que je n'ai plus confiance en eux. Vu comment ils ont géré leur premier impact, leur première sortie, et surtout les choses qu'ils ne nous ont pas dites. Parce que quand on a discuté ici avec un des Gilets jaunes, pas Rodriguez, mais son acolyte, j'ai partagé le plateau ici avec lui. Il avait quand même oublié de nous dire que les premiers Gilets jaunes qui avaient des revendications ont été dédommagés à hauteur de 15% de ce qu'ils réclamaient jamais à l'État. Ils ont quand même oublié de nous dire ça. Donc à un moment donné, je sais pas, moi je ne fais plus confiance, c'est aussi simple que ça.
Bon, et ben on verra bien hein, si avec le déconfinement, il y aura un retour des gilets jaunes. Faut-il s'attendre à un retour des gilets jaunes? Vous dites oui à 96% sur Twitter, sur YouTube. Les débats des vrais voix à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur des plateformes par exemple telles que Radio Player et sur notre chaîne YouTube évidemment. On va se retrouver dans quelques minutes pour les rois de l'info. On va jouer tous ensemble avec vous. 0826 300 300 pour faire équipe avec une de nos vraies voix. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Stella Kamga, Tom Conan, Philippe Bilger, Jean-Marie Bordry qui nous a rejoint. Voici les rois de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Le roi, les rois de l'info avec Jean-Marie Bordry qui est arrivé. Et vous, évidemment, absolument, vous allez jouer avec nous. Voilà, 0826-300-300.
Ou les reines. Ou les reines. Mon cher Philippe. D'ailleurs, on accueille Jacqueline au 0826-300-300 qui nous appelle depuis Versailles dans les Yvelines. Bonsoir à vous, Jacqueline.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, Jacqueline.
Bonsoir.
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 Je vais vous proposer d'abord de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Stella Kamga, Philippe Bilger ou Tom Conan. Pardonnez-moi.
Alors, sans hésitation, Philippe Bilger.
Et voilà.
Sans hésitation.
Sans hésitation.
J'espère alors, que je vous n'en aurez pas après non plus.
Merci pour nous, hein, le sans hésitation.
Non, peut-être pardon, que vous gagnerez des certitudes voilà, après, c'est pas grave.
Vous me rendez heureux déjà, Jacqueline.
Alors, ma chère Jacqueline, d'abord, je vais vous demander... Ben, écoutez, je vais vous poser trois questions. Vous répondez en premier, vous avez le droit de vous tromper. Si vous n'avez pas la réponse, les trois vraies voix ensuite se battent. Et si Philippe Bilger a la réponse, eh bien, vous avez le point. On est parti ?
On est parti.
Allez, commençons ma chère Jacqueline. Nous sommes le 3 mai, c'est une date chargée d'histoire, sachez-le. Une histoire politique d'abord. Qui a gagné, Jacqueline, les élections en France il y a 85 ans, jour pour jour, d'après vous ?
Il y a 85 ans, c'est vieux tout ça, donc...
Vous avez un indice avec la musique.
Ah, j'écoute.
Qui a gagné, comment s'appelait ? La majorité qui a gagné les élections il y a 85 ans.
85 ans ? Bah écoutez, 85 ans, ça fait quoi ça, 85 ans, je dirais.
Faites-le dans le doute. Tapez la, de la première moitié du XXe siècle, allez.
Allez sur Google. Allez sur Google.
Ah ben je peux pas regarder, je donne ma langue au chat.
Ça nous a... Bon, on demande aux camarades vraies voix.
Ah ben ils l'ont pas.
35, ça nous renvoie en 1935, 40,
dis-moi. Populaire. Mm-hmm.
Alors, le Front Populaire.
Oui, 35 oui. Plus précisément, 36, chers amis.
36, Tom a gagné.
Tom a gagné. Oui. Le 3 mai 36, c'était c'est le vrai second tour des élections législatives, la victoire du Front Populaire, les communistes, Front les socialistes et les radicaux.
Ensuite, pardon, Jacqueline, grèves... j'ai ouvert la porte, il s'est engouffré dedans.
Exactement, oui, vous y étiez presque. Oui. Je ne pouvais pas vous donner trop d'indices.
Normalement, vous auriez dû me donner trois propositions.
Et puis, oui.
Ça m'arrive. Là, j'avais juste donné l'international comme musique.
Oui, c'est déjà pas mal.
Allez, c'est pas grave. On continue. On a un autre anniversaire qui est un petit peu plus triste, ma chère Jacqueline. Il y a 38 ans, jour pour jour, nous quittait l'un des plus célèbres dessinateurs de bande dessinée du monde. Comment s'appelait-il ? Là encore, l'indice est dans la musique, d'après vous, ma chère Jacqueline.
Ce serait pas le... Comment il s'appelle Oh là là, je suis un peu nul ce soir, là.
Une bande dessinée célèbre.
Oui,
tiens, essayez.
Astérix ?
Il y avait un chien ou pas ?
Ah, Lucky Luke !
Non plus.
Ah, donc, attends,
on va tous les faire.
On fait toutes les BD avec des chiens.
Tintin,
Bill,
c'était pas un cheval.
Choupi et Doudou.
C'était un chien.
C'est la musique de Tintin, les amis. C'est la musique de Tintin. L'auteur de Tintin.
Ah bah l'auteur,
comment
je sais,
s'appelle-t-il?
Hergé.
Voilà, allez, je vous l'accorde, Hergé. C'est pas grave, on termine. Vous avez grandi avec Tintin, vous ou pas, Jacqueline?
Oui, un petit peu, peut-être. Oui.
Allez, on va voir, on va essayer de réviser nos Tintins avec vous. Comment s'appelait l'album dont le dessin en couverture montrait Tintin au volant d'un sous-marin en forme de requin? Petite Madeleine de Proust de l'enfance.
Tintin et le lac au requin. Avec le requin, en plus, je l'ai. Il me semble que je l'ai, en plus. Alors, attendez, je cherche. Les aventures de Tintin avec le requin, ça s'appelle...
Une histoire de trésor, je vous aide un peu.
Oui, ça s'appelle Tintin et le lac aux requins.
Non.
Alors,
non.
Est-ce que quelqu'un là autour de...
Le trésor de Rackham le Rouge.
Ah, voilà.
Le nom du pirate. C'est pas grave, on va essayer de jouer avec aussi les vraies voix. Tiens, Philippe Bilger, comment s'appelait l'album où Tintin fait de la pirogue avec un Amérindien sur l'Amazonie?
Mon cher Jean-Marie, je n'en fais rien.
Personne ne l'a.
Non, personne ne l'a. Non, pas Coq en stock.
Avec un Amérindien.
Ah, attends, l'île mystérieuse, non, un truc comme ça, non?
C'est une histoire de fétiche qui a un détail.
Jacqueline le sait.
Attendez, j'en connais plein, mais celui-là, ça me dit rien.
L'oreille
du tout.
Cassée, les amis.
Ah, oui.
Qu'est-ce que tu avais entendu aujourd'hui, toi, Jean-Marie?
Je l'avais pas.
Bon.
C'est pas grave. J'ai été peut-être un petit peu trop énigmatique aujourd'hui. Ça peut arriver.
Tom, vous avez gagné.
Est-ce que Tom vous autorise, Jacqueline, malgré tout, à recevoir un mug Sud Radio?
Oui. Il n'en manque plus qu'ils disent non.
Oui, mais j'avais pas le choix, mais c'est comme ça. Tom, vous léguez donc dans votre grande générosité votre mug Sud Radio à Jacqueline. Restez en ligne, Jacqueline.
Merci.
Vous donnez votre adresse versaillaise.
Merci à vous, ma chère Jacqueline. Restez avec nous.
Et on vous envoie un mug Sud Radio.
Les débats des vraies voix dans quelques minutes. La situation très compliquée dans certaines prisons de France entre les agressions quotidiennes et le Covid. Des syndicats lancent un cri d'alerte. Un de leurs représentants sera avec nous. Et puis notre grand débat déconfinement vacances. Peut-on vivre avec le Covid tout l'été? 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Les vraies voix sont de retour sur Sud Radio avec le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, avec l'étudiante et blogueuse Stella Kamga qui est avec nous ce soir, avec Tom Conan également, auteur, artiste. Tiens, le livre de Tom, Radical, aux éditions Albin Michel. Et puis, dans quelques minutes, c'est le grand débat des vraies voix. Depuis ce matin, aujourd'hui, un lundi 3 mai, le déconfinement a officiellement commencé. Voilà, un déconfinement en plusieurs étapes. Et dans le même temps, eh bien, la SNCF a ouvert les réservations pour les vacances d'été. Voilà, il y a 5 millions de billets à 39 euros. C'est la promotion déconfinement, vacances. Va-t-on vivre avec le virus cet été? Ça, c'est sûr, mais la question, c'est... Pourra-t-on vivre avec le virus cet été? Est-ce qu'on va y arriver? On vous pose la question sur Twitter et YouTube. Vous dites oui à 81% pour le moment. Qu'en pensez-vous? Venez en débattre, en discuter avec les vraies voix 0826 300 300 et le médecin généraliste Jean-Paul Ortiz qui sera avec nous dans quelques minutes, médecin à Perpignan, et qui va nous dire si selon lui, eh bien, ce déconfinement arrive trop tard ou trop tôt. Certains médecins tirent la sonnette d'alarme en expliquant qu'on a déconfiné, qu'on est en train de déconfiner beaucoup trop tôt. Il nous donnera son avis à 18h30. Tout à l'heure, voici le tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
C'est un fameux 3 mars, fin comme un oiseau, mystéo.
Voilà, la chanson d'Hugo Frey, c'est sur cette chanson que les joueurs de La Rochelle entrent en général sur la pelouse. La Rochelle qui s'est qualifiée pour la finale de la Champions Cup de rugby et qui rencontrera donc Toulouse. Ce sera le 22 mai prochain. D'ailleurs, même l'artiste Hugo Frey a tweeté à encourager La Rochelle. Daniel Herrero est avec nous. Bonsoir Daniel.
Amis de Sud Radio, bonsoir, je vous salue bien.
Amis Daniel, bonsoir. Daniel, la voix du rugby sur Sud Radio que vous connaissez bien. D'ailleurs, vous aviez commenté la demi-finale avec Alexandre Priam, mon cher Daniel. Alors voilà, La Rochelle, le petit La Rochelle, j'ai envie de dire, face à Toulouse, c'est exceptionnel pour La Rochelle, évidemment. À quel match exceptionnel doit-on s'attendre, mon cher Daniel? Est-ce que Toulouse va avoir un net avantage sur le terrain?
Bon, les deux équipes sont françaises et donc bien connues, elles se connaissent bien entre elles. L'équipe de Toulouse, le club de Toulouse, la cité toulousaine côtoie le haut niveau, les grandes joutes européennes et j'allais dire les gloires nationales et européennes depuis assez longtemps, dont Toulouse est installée, expérimentée, brillante, cultivée et un seigneur d'Ovalie. Mais La Rochelle n'est plus tout à fait, je dirais, une équipe nouvelle. Elle se bâtit depuis plusieurs années. Elle a grandi avec une incroyable attention aux choses essentielles, quoi. Une équipe très moralisée, très respectueuse des individus, très attachée à jouer un jeu à la fois de qualité et, ouais, je dirais, équipé des plus belles valeurs. La Rochelle, c'est solidaire. La Rochelle, c'est enthousiaste.
Donc Toulouse peut avoir peur de La Rochelle, hein Daniel? Toulouse peut avoir peur de La Rochelle.
Voilà, alors est-ce que Toulouse peut avoir peur de La Rochelle? Évidemment, Toulouse n'est pas une équipe dans le suquet. Quand ils arrivent comme ça en finale de la Coupe d'Europe, tu vois, là où la gloire est proche, évidemment, l'adversaire, quel qu'il soit, sera infiniment respecté. Mais La Rochelle, hein, mérite respect. La Rochelle, cette année, a conquis cette place en finale par... c'est pas un accident. Ils l'ont conquis par talent. Parfois même par un génie qui n'est pas le génie de la très très haute, j'allais dire, technicité rugbystique, mais par le génie de la solidarité, par la grande force de l'application collective. Oh putain, l'équipe de Toulouse, à l'évidence, non seulement va se méfier, mais La Rochelle-là commence à faire peur et on peut même pas dire, à l'évidence, que dans le grand stade de Twickenham, tu vois, le temple historique du rugby européen, même s'il est un peu anglais quelque part, dans le grand temple historique, la finale franco-française, mais deux équipes qui sont à égalité de chances, de fait.
Alors, tiens, Philippe Bilger, qui allez-vous supporter? En général, vous aimez bien supporter les petits, non? Enfin, oui, l'équipe là, qui n'est pas favori.
Mais là, je veux pas échapper à la question, Philippe, mais pour des raisons un peu professionnelles, je serai vers Toulouse, oui, mais oui. J'aime beaucoup La Rochelle, et si je peux poser une question à Daniel, je sais bien que vous êtes très sensible à l'esprit d'équipe, mais j'ai lu ce matin quelque chose sur un formidable joueur à La Rochelle qui, je crois, fait 2m03 et qui est fabuleux. Est-ce que un joueur exceptionnel peut tout de même créer une sorte de victoire à lui tout seul?
Alors ça sûrement pas. A priori, on peut pas répondre au rugbyman que nous sommes, de culture, d'histoire, pour pas dire de philosophie ovale, on peut pas répondre à cette question de façon affirmative. Le joueur auquel tu fais référence, il s'appelle Will Skelton, voilà. Il mesure 2m08, il pèse 1,5 quintal. Il pèse 1,5 quintal, c'est un Golgoth, quand tu l'as en face de toi, il te coupe le soleil, mais en même temps, il dégage une telle robustesse, tu vois, il dégage une telle sérénité dans le rude. Tu vois, donc, il est homme de sécurité, il est homme de confiance, il est en même temps, quand même, j'allais dire, une proue dans tout le jeu, non pas de destruction, mais d'usure de l'adversaire, quoi. Tu vois, ça, Will Skelton, lui, il est immense, mais il vient d'arriver, hein, ça fait qu'un an qu'il est là, très très bien intégré, il vient d'Australie, et il est dans les joueurs clés aujourd'hui de l'équipe de La Rochelle, celui qui donne sans doute la plus grande confiance. Mais attention, à La Rochelle, il y a une armée, non pas de guerriers, j'aime pas le terme, mais une armée de, même pas de soldats, il y a une armée de fantassins, il y a une armée de frères, souvent de bons ou de très très bons niveaux, et qui ensemble, comme ça, dégage une forme de j'allais dire, de confiance à leur talent. Ce qui est certain, c'est que La Rochelle,
Daniel,
avec cette
pardon,
qualité morale, La Rochelle joue toujours à son meilleur niveau, quoi, voilà.
Daniel, vous avez donné une très belle définition du débat médiatique, de la sérénité et de la rudesse.
C'est vrai. Ça manque un peu parfois, de la sérénité. Vous suivez un peu le rugby, tiens, Tom et Stella?
Ouais, je suis Tom. Pas, mais par contre, j'ai beaucoup de respect et de sympathie pour les rugbyman et cette culture de manière générale, un peu cette philosophie, en effet, pour avoir pas mal rencontré de gens dans des vacances, ce genre de choses, qui pratiquaient ce sport. Il y a quelque chose de très singulier, de très différent du milieu du foot, très différent aussi du tennis, que je connais beaucoup mieux, parce que j'en ai fait pas mal quand j'étais ado. Donc voilà, je suis pas pour quelle équipe je suis, mais en tout cas, je suis vraiment pour que cette philosophie se pérennise.
Bah, vous regarderez donc la finale, voilà, le 22 mai. Ouais, évidemment, vous commenterez, vous serez avec nous, Daniel Herrero, avec Alexandre Priam. Stella,
soutiens La Rochelle.
Vous soutenez La Rochelle. Depuis que vous avez parlé de ce joueur qui fait 2m08
et
150 kilos, forcément, Stella va soutenir La Rochelle.
Arrête des liens en moi, Philippe.
Merci à vous, Daniel Herrero. Merci à vous.
Ciao, les collègues. Bonne soirée.
Allez,
à vous. Merci
à vous. On sera avec vous le 22 mai et bien avant, évidemment. Daniel Herrero, que vous retrouvez avec Alexandre Priam. Voilà, tous les week-ends. Merci à vous, mon cher Daniel. On va se retrouver dans quelques instants. La suite du tour de table de l'actualité et une situation très, très compliquée, voire même explosive, dans certaines prisons de France, comme Montauban, par exemple, Tarbes, entre les agressions quotidiennes et le Covid des syndicats. Lance un cri d'alerte. Un de leurs représentants sera avec nous dans quelques minutes pour nous expliquer et surtout pour témoigner. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Avec Philippe Bilger ce soir, Tom Conan, Stella Kamga, on poursuit le tour de table de l'actualité. La prison de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées au bord de l'implosion, risque de cluster, agression personnelle en arrêt maladie. Les syndicats ont lancé un cri d'alerte. Bonsoir Laurent Maffre.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Vous êtes secrétaire régional de l'UFAPUNSA pour la région de Toulouse. Alors, je crois que la situation en ce moment, la situation précise en ce moment à la prison de Tarbes, s'est un petit peu améliorée. Dites-nous tout. Laurent Maff, comment ça se passe au sein de cette prison qui, jusqu'il y a encore quelques jours, était très compliquée?
Bon, alors, sur la maison d'arrêt de Tarbes, on a eu un épisode Covid plutôt la semaine dernière.
Oui.
Pas forcément aussi grave ce qui a été dit dans la presse, mais quand même avec beaucoup de personnel qui ont été atteints par le Covid. Et au jour d'aujourd'hui, l'établissement qui un peu nous pose problème, c'est la maison d'arrêt de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, et puis le gros centre pénitentiaire de Toulouse, Saïs, qui là aussi vit des moments difficiles avec du personnel qui est atteint. C'est assez compliqué, quoi. Voilà.
Bon. Combien? Parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de personnel dans ces deux prisons en arrêt maladie. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner, un petit pourcentage? Combien représentent les arrêts maladie dans ces deux prisons?
Bon, après, on peut pas faire des pourcentages parce que sur un établissement comme Seyss, où c'est qu'il y a 300 agents, et Montauban, où c'est qu'il y en a une cinquantaine, on peut pas parler d'un pourcentage. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à Montauban, on sait qu'on a quand même une vingtaine d'agents qui est touchés par le Covid, vous comprendrez que c'est très très compliqué à gérer. Et même si une structure comme Seyss, on est entre 20 et 30, parce que là, c'est pareil, entre les cas qui ont été détectés et ceux qui vont l'être peut-être demain ou après-demain, c'est difficile de rapporter des chiffres au jour, heure par heure. Voilà. Mais la situation est très compliquée parce qu'en plus, si vous voulez, quand on a des détenus qui sont atteints par le Covid, on essaye de les isoler comme tout un chacun dans la vie de tous les jours. Sauf que avec une surpopulation aussi importante que ce qu'on a sur la région, parce que à l'heure que je vous parle, là, au jour d'aujourd'hui, sur la région Occitanie, nous avons 336 détenus, je dis bien 336 détenus, qui dorment matelas au sol. Ça veut dire qu'on est en surcharge, mais on remonte sur des chiffres qu'on a connus il y a plus d'un an et demi, sur 500, on remonte crescendo sur un chiffre record. Voilà. Alors, comment voulez-vous qu'on isole les détenus, que ça soit à Tarbes, à Seyss ou ailleurs, dans cet épisode de surpopulation? Voilà, donc c'est impossible. Alors, il y a le facteur chance. Dans certains endroits, ça a joué, dans d'autres, ça ne joue pas. Mais malheureusement, il y a le facteur chance qui rentre en ligne de mire. Voilà.
Vous avez donc alerté le gouvernement, officiellement, sur la situation dans ces prisons?
Vous savez, quand il y a des cas de Covid, c'est l'ARS qui prend la main. Et l'ARS prend la main, c'est la préfecture, le corps préfectoral, et il est au courant de ce qui se passe. Ouais. Voilà, bon. Après, quand on voit que la situation empire ou évolue mal, ben, malheureusement, on se retourne vers la presse pour alerter un petit peu l'opinion publique et puis les gens de ce pays qui sont au gouvernement. Voilà, mais vous savez, la situation qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, elle est due aussi à une politique par rapport au nombre de places de prison. Parce que quand vous avez, par exemple, un établissement comme Montauban, qui a peut-être une trentaine de matelas au sol, comme la maison d'arrêt d'Albi, qui est pas loin, comment voulez-vous gérer les gens qui ont le Covid et le reste? C'est impossible. Alors quand on a appris la semaine dernière que la structure qui devait être réalisée sur Muret en 2026-2027, 600 places, ben, avait pas retenu l'aval du rapporteur de je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait rapporteurs maintenant de partout, ça peut pas aller en s'arrangeant, quoi. C'est pas possible. Puis après, vous le savez mieux que moi, l'actualité de tous les jours, il y a de l'incarcération à tout va, quoi. Comme nous, on bat des records sur la région toulousaine. On n'a jamais vu que ça.
Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup de débats ici dans les vrais voies, on entend souvent la petite musique, les peines ne sont pas appliquées, on ne va jamais en prison. Là, force est de constater, Philippe Bilger, que, en tout cas en Occitanie, c'est pas le cas.
Bien sûr. Est-ce que, monsieur Maffre, dans les établissements dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a des problèmes de discipline? J'ai l'impression, en regardant un peu ce qui se dit, qu'il y a des prisons où on peut dire que les détenus font la loi. Est-ce que c'est le cas dans les établissements dont vous parlez?
Non. Les détenus ne font pas la loi. Alors certaines fois, comme on dit chez nous vulgairement, ils nous font un petit peu la misère, mais on a quand même la main dessus parce qu'on n'a pas des grosses structures. Et puis après, on n'a pas une population pénale qui comparée par exemple à la population pénale lyonnaise, stéphanoise ou parisienne, c'est pas tout à fait la même chose. Mais certains endroits, on a la vie dure par moment. Oui, c'est pas faux, quoi. C'est pas faux.
Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la situation sanitaire en France, mais on n'entend pas parler de la situation sanitaire dans les prisons, qui est très compliquée. Et merci donc à Laurent Maff de nous avoir alerté, Tom Conan.
Moi, j'aimerais savoir si, justement, avec les membres de votre personnel qui ont déposé des arrêts maladie, est-ce que vous avez réembauché ? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de combler le vide, en fait, que vos collègues, en fait, ont laissé ?
Alors, heureusement, on ne devient pas, ou malheureusement, on ne devient pas surveillant en pénitentiaire du jour au lendemain. Il y a des concours comme policier, donc ça prend du temps à recruter. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on est sous statut spécial, un peu comme les policiers, c'est-à-dire qu'on est corvéable à Nercy, et que quand on est en congé ou en repos, on vient remplacer le collègue qui est en arrêt maladie. Donc ça se passe comme ça, et il y a certaines structures où c'est qu'on fait appel à des personnels d'autres établissements qui ne sont pas touchés. Voilà. Mmh. Et surtout par rapport au gradé. Voilà. Jusqu'à présent, on a réussi à compenser parce qu'il y a un établissement aussi qui a été critique il y a une dizaine de jours. C'est Carcassonne, une petite maison d'arrêt de l'Aude. C'est que là aussi, on a eu des cas Covid parmi les personnels. On a même un personnel, malheureusement, qui était en situation, enfin, qui était à l'hôpital, situation compliquée. Donc là, on a fait appel à du personnel extérieur. Mais après, alors c'est pareil parce que aussi on a un surplus de détenus, mais par contre au niveau du personnel c'est très compliqué dans les structures de la région comme partout en France. Ouais. Donc c'est vraiment sur la tangente. Voilà. Alors ce qu'on voudrait pas, et ce qu'on a essayé d'alerter nos autorités, c'est que par le biais de manque d'effectifs, la population pénale s'aperçoit de cela, et qu'on a, comme on a connu il y a une dizaine de jours à Carcassonne, un détenu qui s'est évadé alors que les conditions peut-être de sécurité par rapport au Covid n'étaient pas tout en place. Voilà.
Tom Conan, un tout petit peu de hauteur par rapport au sujet, mais c'est vrai qu'à la fois il y a l'aspect conjoncturel qui est le Covid, qui va quand même théoriquement s'arrêter à un moment donné, mais après de manière plus structurelle, j'ai l'impression qu'on a toujours, moi j'ai toujours entendu parler des places insuffisantes dans les prisons. Donc à un moment donné, je comprends pas que ce problème-là soit pas enfin réglé. Enfin, je veux dire, on a quand même un minimum de prospective. On n'est pas un pays non plus de 500 millions d'habitants. On a quand même une population relativement stable en France, même si elle évolue, mais elle évolue quand même assez peu. Donc soit les dynamiques de délinquance sont extrêmement différentes selon les années, ou soit alors il n'y a pas de mesures qui sont prises, ou alors les peines alternatives qui sont pas suffisamment appliquées. Je ne sais pas. Est-ce que l'incarcération n'est pas trop systématique ?
On va poser la question à Laurent. En
même temps aussi, Monsieur Dupond-Moretti avait pris la parole pour dire qu'il créait des places et qu'il créait des prisons. Donc je joins donc ces propos.
Alors Laurent Maff, quel est le problème concrètement, Laurent ?
Bon, alors je vais faire parler mon expérience syndicale parce que ça fait 15 ans que quand même je suis à la tête de la région. Mais je vous donner deux exemples. Quand on a fermé la vieille maison d'arrêt de Béziers, qui allait maximum aller à 70-80 détenus, on a créé le centre pénitentiaire de Béziers, qui au départ était prévu pour 600-700. Voilà. On l'a rempli en 6 mois. Je dis bien 6 mois. Quand on a fermé la vieille prison de Toulouse-Saint-Michel à Toulouse et qu'on a transféré tout ça sur le centre pénitentiaire de Seyss, on avait 250-300 détenus de marge à l'espace de 3 mois. Ça a été rempli. Voilà. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que on a une implosion de délinquance aussi bien sur les grandes villes style Toulouse, style pourtour méditerranéen, parce qu'il faut savoir aussi que du côté de Perpignan, c'est très tendu aussi. On a un pourtour méditerranéen qui est assez criminogène, où il y a beaucoup de délits et de crimes, et aussi on a l'agglomération toulousaine ce qui se passait à Marseille il y a 10 ans est en train d'arriver sur Toulouse.
Voilà, alors, Laurent Maff, pour finir, souvenez-vous, écoutons la petite phrase qu'avait prononcée le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Écoutez.
Je suis le ministre des prisonniers et je suis le ministre de l'administration pénitentiaire, voyez-vous.
Alors, une petite réaction à cette phrase du ministre. Est-ce que c'est votre ministre, Éric Dupond-Moretti ?
Ah bah oui, sur le ministre. Après, c'est vrai que quand il a visité le premier établissement de Fresnes, tout le monde se rappelle les applaudissements qu'il avait eus. N'oublions pas que c'est un avocat, voilà. Ouais. Après, vous savez, nous, notre syndicat, on juge les ministres par leurs actes. Donc, pour l'instant, on est un peu dans la spectative, voilà. Et puis après, on verra bien ce qui va se passer, voilà. Bon. Après, on fait pas de politique, moi, donc on attend de voir, voilà.
Merci à vous.
J'aimerais bien que les surveillants applaudissent un jour Dupond-Moretti, ça.
J'ai l'impression que c'est pas demain la veille, effectivement. Merci à vous. Laurent Maffre, merci à vous, merci. Secrétaire régional de l'UFAP-UNSA pour la région de Toulouse. Dans quelques instants, c'est le grand débat des vraies voix. Est-ce qu'on est capable de vivre avec le Covid tout cet été, le déconfinement qui commence et la SNCF qui a ouvert des réservations, 5 millions de trains à 39 €, c'est une grande promotion. 0826 300 300 et le médecin perpignanais Jean-Paul Ortiz qui nous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite.
Car j'étais sur la route toute la fin de journée.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
18h30 sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix. Aujourd'hui, lundi 3 mai, débute officiellement le déconfinement par étapes, plusieurs étapes, jusqu'au 30 juin. Dans le même temps, la SNCF ouvre ses réservations pour les vacances d'été avec une offre promotionnelle. 5 millions de billets à 39 €, déconfinement, vacances. Peut-on vivre avec le virus tout cet été? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et YouTube. Vous dites oui à 68%. 0826 300 300. On va vous écouter dans quelques instants. Et le médecin perpignanais Jean-Paul Ortiz qui nous rejoint pour en débattre. C'est le grand débat des vraies voix.
La France, vous l'avez adorée l'été dernier, et désormais une chose est sûre, vous pourrez renouveler l'expérience cette année.
J'espère bien, sûrement que ce ne serait pas quand même des vacances complètement normales.
Les déplacements entre régions sans conditions seront autorisés, du moins en France métropolitaine.
La différence, je l'espère, entre l'été 2021 qui s'annonce et l'été 2020, c'est qu'on aura vacciné.
Pour l'instant, rien n'a été décidé pour l'Outre-mer et la Corse, où un test PCR négatif reste obligatoire.
À ce moment-là, on retrouvera une partie de notre liberté.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les Hauts-de-France.
Alors les jours d'affluence, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'avec le Covid, et pourtant c'est ce qui va arriver à la SNCF qui a ouvert ses réservations. 5 millions de billets de train, c'est la promotion à 39 €. Va-t-on réussir à vivre avec le virus cet été? 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Le grand débat avec Philippe Bilger, Stella Kamga, Tom Conan et Jean-Paul Ortiz qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, médecin à Perpignan, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Mon cher Jean-Paul Ortiz, alors Emmanuel Macron, pour la première fois il y a quelques jours, l'a évoqué à la presse quotidienne régionale, il va falloir vivre avec le virus, mais la question que l'on se pose c'est est-ce qu'on en est capable? Est-ce que cet été, Jean-Paul Ortiz, on va réussir à vivre avec ce virus, ou alors au bout de quelques semaines, il y aura un tel taux d'incidence qu'on va être obligé en catastrophe de reconfiner, Jean-Paul Ortiz?
Écoutez, c'est toujours difficile de savoir ce qui peut se passer cet été parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Par contre, la situation, elle est différente par rapport à ce qu'on a vécu l'été dernier, puisqu'on commence à rouvrir les différentes activités avec des taux d'incidence qui restent élevés, avec un nombre de patients en réanimation qui certes a baissé, on est autour de 5500 actuellement, alors qu'on a dépassé les 6000 patients il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Une incidence qui aujourd'hui est à 256, alors qu'on était à pratiquement 100 de plus il y a quelques jours, donc ça va mieux, mais on a toujours ce virus qui circule. Alors, est-ce qu'on va continuer à avoir ce virus qui va circuler? Oui. A-t-on une autre solution? Non. Nous ne sommes pas une île isolée, comme la Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas une culture qui nous permet de restreindre les libertés de façon absolument drastique, comme des pays comme la Corée, par exemple, voire même la Chine, qui a réussi, même s'il y a des rebonds en plus, on l'a vu pour Wuhan. Donc, il va falloir effectivement vivre avec le virus. Mais vivre avec le virus, ça veut dire, un, vacciner, deux, continuer les gestes barrières, de façon à ce que le virus diminue progressivement sa propagation et qu'il y ait de moins en moins de personnes touchées. Mais il y en aura, il continuera à y en avoir.
On va donc passer, vous nous le confirmez quand même, Jean-Paul Ortiz, des drôles de vacances, puisque vous nous annoncez donc la poursuite, enfin c'est ce que vous préconisez, des gestes barrières. Voilà, avec 30 degrés en vacances sur la plage, vous imaginez, Stella, Tom Conan, Philippe Bilger, avec un masque. Mets-moi un peu de monoeil. Bah non, 1,50 m de distance, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Non, mais comme disait très bien monsieur, c'est que je pense que ça va effectivement effectivement, il y a des signes encourageants avec effectivement la vaccination qui n'est pas encore suffisamment complète, c'est moins qu'on puisse dire. Mais après, il va y avoir sans doute de plus en plus d'efforts dans les prochaines semaines. Et il y a beaucoup plus de gens maintenant, je vois aussi, qui lèvent un peu les doutes qu'ils pouvaient encore avoir sur certains vaccins et qui maintenant y vont les yeux fermés. Moi, je fais un peu de propagande autour de moi parce que je pense que c'est aussi une très bonne chose et c'est aussi un geste citoyen. Mais effectivement, ça va être sans doute très compliqué. Les gestes barrières, il va falloir forcément les respecter. Sinon, en fait, après, on peut se sentir responsable parce que, évidemment, demain, évidemment, vous louez une baraque quelque part, techniquement, même si c'est illégal, il n'y a pas forcément à avoir une descente de police s'il y a 20 personnes. Mmh. Mais je pense qu'il faut que chacun aussi intègre l'idée.
Mais est-ce que vous pensez
si tout
que les Français vont vraiment respecter cet été les gestes barrières?
Je pense que oui,
barrières.
Ils vont le respecter pour une bonne partie. Mais après, ça suffira peut-être pas. Il suffit de dire qu'il y ait quelques personnes pour qu'il y ait des clusters nouveaux qui se forment.
Philippe Bilger, est-ce qu'on va être de bons élèves cet été?
J'espère être le premier de ceci, mais j'en suis pas sûr. Mais je voudrais demander à Jean-Paul Ortiz, est-ce qu'au fond, il est complètement utopique d'imaginer qu'on puisse un jour se débarrasser totalement de ce virus, docteur?
Alors, utopique, aujourd'hui, oui, faut être clair. Mais par contre, avec la vaccination, vous savez, le virus, c'est pas un animal qui se multiplie en tant que tel. Il a besoin d'un support qui est l'homme. Et donc, le virus, il existe par l'homme et la transmission interhumaine. C'est comme ça que le virus va se diffuser dans une société humaine, quelle qu'elle soit. À partir du moment où l'hôte, qui est l'homme, est vacciné, et donc le virus ne peut plus se multiplier, avec la vaccination, nous allons arrêter la diffusion de ce virus. Il restera les gens qui ne sont pas encore vaccinés, qui refusent, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à avoir des cas. Et puis il y a une deuxième problématique, qui est celle qu'on connaît bien pour la grippe, c'est que ce virus, comme le virus de la grippe, c'est pareil, il évolue au fur et à mesure qu'il se multiplie chez les différents individus qu'il touche. Et comme il évolue, apparaît ce qu'on appelle des variants. On a beaucoup parlé, le variant anglais, maintenant il n'y a plus que du variant anglais en France, le brésilien, le sud-africain, etc. etc.
Donc il va falloir se faire vacciner, c'est ce que vous nous dites, tous les ans, comme la grippe.
Tout à fait, ça veut dire que très vraisemblablement, même si on n'en est pas complètement sûr, nous allons être amenés à nous vacciner tous les ans contre ce SARS-CoV-2, ce coronavirus, de façon à être protégés et arriver à éviter, à un moment donné, que cette épidémie ne reparte sous la forme d'un variant.
Sauf que la grippe, la différence avec la grippe, c'est que ça concernait que les plus de 65 ans, donc c'était relativement facile de vacciner. Là, ça va être compliqué en termes de logistique de vacciner chaque année 65 millions de Français, enfin un peu moins parce qu'il y a les enfants.
Mais après, il faut quand même se rendre compte aussi que les progrès avec la technologie ARN quand même de ce vaccin est quand même assez prometteuse. Donc on peut aussi imaginer que le vaccin demain pourrait être de plus en plus efficace également. Il y aura des effets d'apprentissage et même effectivement
dans quelques années peut-être.
Oui, peut-être. Mais donc il faut quand même être positif de ce point de vue-là. Mais en effet, moi je suis convaincu un petit peu comme ce que disait Philippe Bilger que ce virus ne va jamais réellement disparaître.
Stella Kamga.
Moi je suis enfin sous la que finalement ils comprennent après mille et une émissions que j'ai fait avec vous et que j'ai pas arrêté de dire qu'il fallait justement qu'on reprenne notre vie avec le virus. Je suis déçue que ce soit aussi tard, mais mieux vaut tard que jamais.
Ils vous ont écouté.
Finalement, c'est pour ça que je dis mieux vaut tard que jamais. Exactement, c'était mon idée. Je dois la réclamer. Mais non, je suis un peu un peu tendue sur le fait qu'il faille se revacciner chaque année pour retrouver la vie. Parce que j'ai peur des piqûres, mais sinon...
Ah oui, donc c'est personnel.
Voilà. Après, ce qui est important aussi, je pense, c'est les alternatives. Tant qu'on a des alternatives à certaines choses, certains amusements, certaines pratiques sociales, etc., certaines manières de passer des vacances, puisque c'est la question aussi, je veux dire, ça peut être supportable. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est difficile, c'est quand il y a vraiment des pans de notre vie entiers qui sont amputés et supprimés. Ça, c'est pas supportable.
Là, les terrasses, les restaurants, c'est rouvert.
Exactement, c'est pour ça. C'est positif.
Par contre, est-ce que les frontières... oui, on peut aller en vacances en France, mais est-ce que les frontières sont ouvertes?
Alors, certainement, mais avec un pass sanitaire, on va en reparler avec Jean-Paul Ortiz. D'accord. Guy nous appelle de Paris au 0826-300-300. Bonsoir, Guy.
Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Bonsoir.
Voilà, Stella Kamga, Philippe Bilger, Tom Conan et notre invité Jean-Paul Ortiz. Mon cher Guy, vous allez partir en vacances cet été ou pas? C'est prévu? Vous avez prévu?
Non, j'avais pas prévu de partir en vacances. Mais bon, ça c'est pas un souci pour moi. Je suis intervenu sur Sud Radio il y a quelques temps en disant pour le moment je ne me fais pas vacciner parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Là, je viens encore d'interroger mon pharmacien qui est à côté de chez moi.
Vous avez quel âge, Guy, sans indiscrétion?
71 ans.
Et il n'y a pas de vaccin pour vous ?
Si, mais si vous voulez, moi j'ai un discernement, j'en ai déjà parlé la dernière fois, ça a été salué il y a deux semaines, trois semaines à peu près. Je fais passer en priorité les personnes pour lesquelles il est nécessaire qu'elles soient vaccinées. Oui. Ça, c'est. Et on a, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas un quart de la population qui est vaccinée. Donc je suis pour ces vacances, je suis pour aérer tout le monde. À la limite, il n'est même pas besoin d'avoir un masque quand on est sur le bord de la plage. Suis pour lâcher du lest quand même, de manière à aussi permettre aux gens de se responsabiliser. Oui. Mais avec augmentation des tests. Là, je viens de me faire tester aujourd'hui, je fais des tests régulièrement, je suis négatif. Enfin, pour le test, et si vous voulez, donc augmentation des tests. On peut, par exemple, autoriser les restaurants à ouvrir, mais au lieu d'avoir une table entre deux personnes, mettre deux tables.
Oui.
D'accord.
Oui.
On peut faire les choses.
Donc on vit des vacances normales entre guillemets avec beaucoup de prudence. C'est ce que vous nous expliquez.
C'était une idée que j'ai vu une émission justement qui en parlait sur CNews et il parlait de purificateur d'air par table. Est-ce que
on en parle beaucoup. On va poser la question à Jean-Paul Ortiz. Jean-Paul Ortiz, on parle beaucoup, c'est vrai, en ce moment de purificateur d'air. Est-ce que c'est essentiel d'une part?
Il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Aujourd'hui, on sait qu'en extérieur, les risques de contamination sont bien moindres. Ils ne sont pas nuls, attention, mais ils sont bien moindres si vous avez quelqu'un qui est porteur et qui est donc contaminant. Vous risquez d'être contaminé si vous êtes face à face pendant plus d'un quart d'heure à moins d'un mètre cinquante. Et en extérieur, ça va grandement diminuer. Plus vous êtes dans un endroit qui est clos, qui est confiné, et plus vous êtes nombreux dans un endroit clos et confiné, plus vous avez des risques de contamination. Ceci explique que, par exemple, les boîtes de nuit, pour l'instant, on ne va pas les rouvrir. Parce que c'est par définition des
endroits. Donc, un purificateur d'air est nécessaire
Par contre, les purificateurs d'air peuvent se discuter dans des endroits qui sont clos, même si, pour l'instant, les premières publications qu'on a sont prometteuses, mais on manque encore de données scientifiques sur ces purificateurs d'air par rapport au Covid-19. Je crois que c'est une piste intéressante, mais on va vers l'été, il suffit tout simplement d'aérer largement les endroits où nous sommes, les pièces où nous sommes, de façon à éviter cette contamination par le virus.
Alors, évidemment, elle posait la question, Stella Kamga, est-ce que les frontières vont rester fermées ? La réponse est non, puisque un pass sanitaire va être mis en place pour voyager en Europe et à l'étranger. Et il y a toujours cette question, Jean-Paul Ortiz, du pass sanitaire, par exemple, pour les restaurants, puisque Emmanuel Macron est pour un pass sanitaire pour ce qu'il appelle les gros événements. Est-ce qu'on peut imaginer un pass sanitaire pour les restaurants, pour les terrasses, par exemple ? Est-ce que vous y êtes favorable en tant que médecin ?
En ce qui me concerne, je pense que le débat sur le pass sanitaire, de toute façon, il va s'imposer. Il va s'imposer et les Français vont demander un pass sanitaire parce que ça va leur permettre d'être beaucoup plus libres dans leur vie quotidienne, bien sûr pour passer les frontières, bien sûr pour voyager, bien sûr pour prendre l'avion, mais demain pour aller au théâtre, au concert, et pourquoi pas demain, en particulier en période quand on va rentrer dans l'hiver, pour pouvoir aller au restaurant dans un endroit qui est clos. Donc ça va s'imposer avec les personnes qui seront vaccinées, les personnes qui feront des tests, et votre auditeur l'a dit tout à l'heure, il faut multiplier les tests de façon à ce que… Mais ça ne suffit pas de multiplier les tests, il faut multiplier les tests et derrière permettre à ce que tous les patients qui sont positifs s'isolent immédiatement pour éviter la contamination.
Alors sur le pass sanitaire,
docteur, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, docteur, sur le fait que les gens vont le demander. C'est effectivement, je pense que c'est très important. Souvent, on croit que cette idée-là, elle descend d'en haut et elle va s'imposer aux gens. C'est un peu comme ça qu'elle est reçue et souvent combattue même. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, s'il n'y a pas ce pass sanitaire, ne retourneront pas dans le cinéma. Ça viendra de là, sans doute.
Moi, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si justement on se fait vacciner, est-ce qu'on doit encore pour voyager faire un test PCR?
Pour l'instant, c'est ce qu'il demande à Jean-Paul Ortiz, la vaccination et le test négatif.
Du coup, pourquoi avoir les deux en fait?
Pour l'instant, il faut comprendre que pour l'instant, la vaccination, elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc, si on mettait un pass sanitaire basé uniquement sur la vaccination, on créerait une situation très inégalitaire.
En fait, la question que pose Stella, c'est si on est vacciné, pourquoi un test PCR est demandé ?
C'est ça, parce que j'ai un exemple.
Pour l'instant, il y a deux raisons. Celle que je viens d'exprimer, à savoir que la vaccination n'est pas accessible à tous. Et la deuxième raison, c'est que les premières publications sont en train de sortir. Il y a une publication anglaise qui est extrêmement intéressante, qui vient de montrer qu'a priori, les personnes qui sont vaccinées ne sont pas transmetteuses du virus. Ouais. Mais pour l'instant, on n'en était pas vraiment sûr jusqu'à présent. Les premières publications sortent là-dessus parce qu'on s'est surtout intéressé à l'efficacité du vaccin contre les cas graves. On ne s'est pas intéressé au fait que ça permettait d'éviter la transmission du virus. C'est en train de sortir, donc je suis persuadé que dans quelques semaines, on pourra s'affranchir du test RT-PCR à partir du moment où on est vacciné et à partir du moment où la vaccination est largement ouverte à tout le monde. On reçoit de plus en plus de vaccins. Il faut dire à ce monsieur de 71 ans, ce n'est pas la peine qu'il se sacrifie, qu'il cultive la vertu. Aujourd'hui, on reçoit des millions de vaccins. On va accélérer la vaccination et vraiment, il faut qu'il
aille. Il peut y aller les yeux fermés. Voilà Guy, hein. Guy, allez-y, hein. Ne vous sacrifiez pas. Allez-y, on a beaucoup de vaccins. Vous avez entendu notre médecin, vous pouvez aller vous faire vacciner. Non, la petite peur que j'ai, Philippe Bilger, c'est on a bien compris que le virus allait durer plusieurs années, qu'on va devoir se faire vacciner chaque année. Est-ce qu'un pass sanitaire va être nécessaire chaque année également ?
Bonne question.
Mais hein, s'il y avait que ça, ça ne me gênerait pas.
Ah bon ?
Finalement, bon.
Mais, ouais, mais c'est pas chaque année en fait, c'est permanent d'une certaine façon.
Oui, c'est
moi,
ça.
Je vois comme
c'est
chose un pass sanitaire quasi permanent.
On va devoir vivre Jean-Paul Ortiz avec un pass sanitaire maintenant.
Ouais. Oui.
C'est un peu, c'est ça en fait.
Qui pourrait être mondial d'ailleurs, hein, parce que vous savez
tout
quand même que
il sera au moins européen. Ouais. Il sera au moins européen a priori, mais vous savez, quand vous allez dans certains pays, on vous demande vos certificats de vaccination.
Ouais, oui, ah, c'est, voilà, c'est des pays très éloignés, le Bali par exemple, effectivement.
Non, mais la Guyane, il vous faut la fièvre jaune. Hein, c'est la France, c'est la Guyane.
Ouais, mais la Guyane ou Bali, c'est moins à la portée des Français que l'Espagne par exemple.
Même si ça sort un tout petit peu de notre sujet, je pense que malgré tout, vous savez, on parle depuis longtemps quand même de négociations multilatérales dans beaucoup de domaines, par exemple dans l'écologie, également sur les questions d'économie, etc. De relance, de lutte contre la pauvreté. Et bien là, sur quand même, malgré tout, quand même sur cette question-là du vaccin et de la vaccination et du pass, bah, ça sera peut-être effectivement le point d'entrée vers des règles mondiales, en tout cas les plus larges possibles, pas un gouvernement mondial, mais en tout cas des règles mondiales qui seront les plus uniformisées possibles. Et c'est sans doute souhaitable.
Voilà. Donc, ce qu'on a compris, hein, Jean-Paul Ortiz, c'est que le pass sanitaire, enfin, les Français, je pense que le pass sanitaire va durer quelques mois, le temps que la crise soit finie. Non, vous nous dites bien que ce sera un pass sanitaire
en tout cas, qu'il
permanent, hein, c'est ça, Jean-Paul Ortiz.
Oui, puis il n'y aura pas forcément, sur notre pass sanitaire qui devrait sortir dans les semaines qui viennent, il n'y aura pas forcément que la vaccination anti-Covid. Je parlais de la fièvre jaune, mais ça sera un pass sanitaire qui comportera plusieurs vaccinations qui sont obligatoires pour aller dans certains pays. Et je reste persuadé que de toute façon, les compagnies aériennes vont progressivement l'imposer à partir du moment où il y a de la vaccination.
Là, vous parlez des voyages, on parlait aussi, nous, des grands événements, du restaurant, par exemple.
Absolument.
D'accord, donc ce sera un pass sanitaire permanent. Bon, on a bien compris, ça s'imposera. Ça vous dérange, Philippe Bilger, ça ?
Finalement, le après côté avoir dit non, vivre, ça va devenir une vraie bureaucratie.
Ça,
ça, c'est clair.
Non, parce que ce sera par un iPhone ou un Android qui vous permettra de montrer que vous êtes à jour de votre pass sanitaire, de votre vaccination ou que vous avez fait un TPCR négatif.
Et honnêtement, si on n'a pas de smartphone ?
Non, honnêtement je pense que si, c'est une bureaucratisation. Je veux dire, le fait quand même, mais après, elle peut être positive, cette bureaucratisation, elle peut être vertueuse, peut être intelligente. Mais nier le fait que demain, si on va dans un resto, on doit avoir avec un QR code, un pass, etc., que ce n'est pas une bureaucratisation de l'existence, c'est ne pas avoir quand même de mémoire ou même de culture littéraire, par exemple. Ouais. Bon. Non, je pense que c'est clairement ça qui va se passer. Hein.
Merci à vous, Jean-Paul Ortiz.
Bien sûr, mais c'est obligatoire dans la situation sanitaire actuelle.
Certes. On l'a bien compris. Merci à vous, Jean-Paul Ortiz. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Voilà, médecin à Perpignan, président de la Confédération des syndicats médicaux français. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant avec Jean-Marie Bordry et les débats des vraies voix, le grand débat des vraies voix, en tout cas, à retrouver sur notre site sudradio.fr en podcast. Sur des plateformes comme Radio Player, par exemple, ou encore sur notre chaîne YouTube. Dans quelques instants, le clin d'œil des vraies voix, c'est avec Jean-Marie Bordry. Restez avec nous, à tout de suite.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi.
Retour des Vraies Voix avec Stella Kamga ce soir, Philippe Bilger, Tom Conan et le clin d'œil des Vraies Voix qui vous emmène dans le Gard aujourd'hui pour vous raconter cette histoire ubuesque qui est arrivée à la maman d'un petit bout de chou qui est en maternelle, Jean-Marie.
Oui, absolument, Philippe. Ce sont les aléas kafkaïens d'un protocole sanitaire à l'école. C'est-à-dire dans Midi Libre aujourd'hui, une institutrice est malade. Ça peut arriver. Elle n'est pas remplacée depuis plus d'un mois. Ça aussi, malheureusement, ça arrive. Eh bien, la semaine dernière, l'école a été obligée de refuser les enfants à leur arrivée. Bonsoir à vous, Karen Missiak.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes infirmière libérale dans le Gard. Vous êtes la maman, on le disait, d'un petit bout de chou qui a 5 ans, qui est en moyenne section de maternelle, tout simplement. Pendant un mois à peu près, votre enfant était réparti dans d'autres classes avec ceux de la sienne puisque l'institutrice n'était pas remplacée. Mais la semaine dernière, ça a changé. Pourquoi ?
Oui, par rapport au nouveau protocole sanitaire établi par le ministre. À partir de lundi, en fait, les enfants dont les instituteurs n'étaient pas remplacés n'avaient plus accès à l'école.
Ils ne devaient plus avoir l'accès. Alors au début, ça a commencé lundi dernier, ils se sont organisés, vous étiez au travail, c'est ça, mari aussi.
Voilà, on nous a téléphoné à tous les deux pour venir récupérer notre fils à l'école à 8h30, alors qu'il était à l'école depuis 7h30, c'est-à-dire à la garderie.
Voilà, donc vous ne pouviez pas le récupérer, du coup ils s'en sont occupés au début de la semaine.
Voilà, lundi et mardi, et ensuite, quand je l'ai amené moi-même à l'école, on m'a dit qu'on ne pouvait pas le récupérer, qu'on ne pouvait pas le prendre, le garder. Vendredi, jeudi soir, on nous a carrément dit qu'on ne pouvait plus déposer les enfants à la garderie, qu'ils ne seraient pas pris en charge.
Donc ça veut dire, en gros, et je rappelle, vous êtes infirmière libérale, ça veut dire que vous faites partie de ces professions dites prioritaires, notamment pour l'école, pour que vous puissiez encore vous occuper des malades du Covid. Il faut qu'on puisse vous trouver une solution pour garder les enfants. Ça vaut aussi cette galère pour les parents des autres élèves de la même classe.
Exactement.
Mais en gros, les enfants, dont le vôtre et vous d'ailleurs, ont été refoulés à la porte d'entrée de l'école.
C'est ça.
Alors, directement non. Et en sa présence. Ça s'est amélioré, hein, je le précise tout de suite, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, ce matin, parce qu'une remplaçante a fini par être trouvée, c'est peut-être un effet d'ailleurs de votre interview que vous avez donnée chez nos confrères de Midi Libre aujourd'hui, et du coup vous avez été prévenu par mail ce matin au dernier moment.
Voilà, c'est ça. Par contre, je tiens quand même à dire que avant d'avoir fait l'interview à Midi Libre, j'avais quand même alerté les autorités compétentes, c'est-à-dire l'inspection d'académie. Après, personne m'a répondu, personne n'a su
même
me répondre.
Le ministère, oui. C'est ça.
Voilà, oui, et le ministre aussi de l'Éducation nationale qui ne m'a pas répondu, bien entendu, mais enfin, voilà.
C'est ça. Donc au début, pendant un mois, l'école a bricolé comme elle a pu en répartissant la classe qui n'était pas pourvue dans les autres classes, et ensuite, avec un nouveau protocole...
Malheureusement, arrive tout le temps, je tiens aussi à dire que ça arrive, malheureusement, je pense que les enseignants sont aussi vraiment marre d'avoir des conditions comme ça.
C'est ça. Et après, les parents doivent se débrouiller comme ils peuvent. Du coup, vous l'avez gardé quand vous ne travailliez pas, sa grand-mère ensuite. Effectivement. Philippe Bilger ?
Alors, oui. Non, mais c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on parle beaucoup des fermetures des classes. Il y a eu beaucoup de classes fermées. Et on ne parle pas, parce que votre histoire me fait penser à plusieurs témoignages que j'ai lus dans la presse. Effectivement, mais vous l'avez bien relayé. Effectivement, beaucoup d'enfants aussi sont refusés parfois parce que la maîtresse est absente. Effectivement, ça arrive, c'est compliqué. Et je me dis que tant qu'on n'a pas vacciné tous les enseignants, malheureusement, ça risque encore d'arriver, votre histoire. C'est pour ça que c'est important de faire vacciner tous les enseignants. Et à ce jour, malheureusement, l'objectif n'est pas atteint.
Oui. Alors, Karine Missiak ?
Oui.
Vous êtes vaccinée, vous ?
Non.
Ah, vous êtes
c'est
donc
pas grave.
Ouais, mais vous êtes une des soignantes... qui voulait pas vous faire vacciner. Alors, Jean-Marie, est-ce que
je n'ai pas dit que je voulais pas me faire vacciner.
Oui, bien sûr, on a bien compris.
Non, c'est pas le sujet.
Vous n'étiez pas vacciné.
D'ailleurs,
vous n'étiez pas
vacciné. Un certain nombre de Français encore à pas l'être, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ça met le doigt surtout sur un, les problèmes qui existent au sein de l'éducation nationale en termes de remplacement d'enseignants toute l'année et pas que dans le Covid. Deux, ça montre aussi cette histoire, eh bien, les problèmes des protocoles sanitaires qui font que du coup, on vous dit, on va tout faire pour que vous n'ayez pas à arrêter de travailler, surtout quand vous êtes infirmière, donc on va s'occuper de vos enfants. Et à l'arrivée, on n'y arrive pas parce que le protocole a changé. Et du coup, on vous dit, débrouillez-vous avec vos enfants. C'est ce qui s'est passé pendant une semaine. La bonne nouvelle, on le redit malgré tout, Karen Missiak, c'est que ça s'est arrangé comme par miracle aujourd'hui. Alors, c'est peut-être l'effet de votre lettre à Jean-Michel Blanquer, ou c'est peut-être l'effet de votre interview dans Midi Libre, en tout cas. On espère surtout que ça vous arrivera pas davantage et que le petit n'a pas gardé de mauvais souvenirs.
Oui, il n'y a plus qu'à espérer, parce que c'est traumatisant pour un enfant d'être refoulé effectivement devant une grille d'école.
C'est vrai, et vous l'embrasserez bien fort pour nous, votre petite bouchouk à 5 ans.
De la part de tout Sud Radio, ça pourra lui arriver quand il aura 18 ans devant une boîte de nuit, mais là c'est trop tôt.
Ah oui, pour l'instant c'est pas le cas.
Merci beaucoup, en tout cas ma chère Karen Missiak, bon courage à vous. Et puis à tous les parents d'élèves qui peuvent être dans votre situation.
Oui, c'est ça, aussi à tous les autres parents.
C'est ça. Exactement, et à tous ceux qui se débrouillent.
Voilà.
Merci.
Et à tous les enseignants aussi qui se débrouillent aussi pour se répartir les remplacements qui ne sont pas pourvus.
Il n'y a pas que les
soignants, qu'on les aide. Mais bon.
Merci à vous, Karine.
Merci beaucoup, en tout cas. Je rappelle que vous êtes infirmière libérale dans le Gard. Vous êtes la maman d'un petit élève de 5 ans en moyenne section.
Les vraies voix qui font bouger la France et la suite. Et ce soir, c'est les voix de la politique avec vous, Jean-Marie Bordry. Et donc, ce débat qu'on a eu tout à l'heure, l'alliance, l'accord entre LR et LREM.
Ouais, l'alliance et l'accord entre LR et LREM, et surtout, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que Renaud Muselier a dit adieu à sa région en signant ce pacte, ou est-ce qu'au contraire, ça va lui permettre de gagner face au Rassemblement National? Ça sera chargé de leçons, notamment pour la présidentielle qui suivra.
Et voilà, les voix de la politique dans un instant, restez là, à tout de suite.